Voilà, pour ceux qui étaient là dimanche passé, j'espère que vous avez lu les trois derniers chapitres qui seront en fait l'objet de la prédication ce matin. Alors, nous n'allons pas entendre la lecture intégrale maintenant. Ça, c'est un peu particulier aujourd'hui, un petit résumé. Ensuite, suivi de quelques autres textes bibliques utiles pour cette prédication.
Alors, c'est Juges chapitre 19, versets 1 à 3. En ce temps-là, il n'y avait point de roi en Israël. Un Lévite qui séjournait à l'extrémité des monts d'Éphraïm prit pour sa concubine une femme de Bethléem de Juda. Sa concubine lui fut infidèle, puis elle le quitta pour aller dans la maison de son père à Bethléem de Juda, où elle resta l'espace de 4 mois. Son mari se leva et alla vers elle pour parler à son cœur et la ramener. Il avait avec lui son jeune serviteur et 2 ânes. Elle le fit entrer dans la maison de son père, et quand le père de la jeune femme le vit, il le reçut avec joie. Voici un résumé de la suite de l'histoire. Dans la première partie des Juges, au chapitre 19, du verset 4 au verset 28, le Lévite ensuite rentre chez lui avec sa concubine en passant par Gibéa, où des hommes de la ville désirent avoir des rapports homosexuels avec lui. Il se protège en leur mettant sa concubine dans les bras et va se coucher pendant qu'elle est terriblement abusée. Le matin, le Lévite part de la ville en chargeant sur son âne sa concubine étendue devant la porte qui ne donne pas de réponse. La deuxième partie, c'est le chapitre 19, toujours dans les Juges, 19-29, au chapitre 20, verset 47. Le Lévite fait venir par un dégoût scandalisé tout le peuple d'Israël à Mitzpah, en envoyant sa concubine découpée en 12 morceaux dans tout le pays. Le Lévite témoigne de ce qui est arrivé de manière à se mettre hors de cause et à charger la ville de Gibéa en pressant le peuple à prendre une décision. La tribu de Benjamin ne veut pas livrer les Vouriens de Gibéa. C'est la guerre avec 40 000 morts du côté d'Israël et 26 100 du côté de Benjamin. Il reste 600 hommes qui ont combattu pour la ville de Gibéa. Ils sont cachés dans le désert. Ensuite, troisième partie, du chapitre 20, verset 48, au chapitre 21, verset 25. Le peuple d'Israël, qui avait fait le serment de ne pas donner leur fille à un Benjaminite, va massacrer toute la population de toutes les villes de la tribu de Benjamin. Le peuple demande ensuite à Dieu pourquoi il manque maintenant une tribu en Israël. Pour réparer leur massacre, les Israélites cherchent un moyen de donner des femmes aux 600 hommes qui avait défendu Gibéa, caché dans le désert. Le peuple avait fait un deuxième serment insensé en disant que celui qui ne viendrait pas à Mitzpah serait mis à mort. Ils utilisent ce serment pour massacrer la population de Yabesh et prendre les filles vierges qu'ils donnent aux Benjaminites. Comme il en manque encore 200 pour que chaque survivant ait une femme, les anciens de la communauté disent aux Benjaminites d'enlever des filles qui danseront hors de la ville de Silo lors d'une fête de l'Éternel. Ils s'occuperont des familles qui se plaindront de ces enlèvements. C'est ainsi que nous arrivons au verset 23 du chapitre 21. Donc, Juges 21, 23 à 25. Ainsi firent les fils de Benjamin. Ils prirent des femmes en nombre suffisant parmi les danseuses qu'ils enlevèrent, puis ils partirent et retournèrent dans leur héritage. Ils rebâtirent les villes et ils y habitèrent. Et dans le même temps, les Israélites s'en allèrent de là, chacun dans sa tribu et dans son clan. Ils partirent de là, chacun dans son héritage. En ce temps-là, il n'y avait point de roi en Israël. Chacun faisait ce qui lui semblait bon. Et nous lisons dans Osée 9, 9 et 10, 9. Ils sont plongés dans la corruption comme au jour de Gibéa. L'Éternel se souviendra de leurs fautes, il interviendra à cause de leurs péchés. Et 10, verset 9. Depuis les jours de Gibéa, tu as péché Israël. Ils en restent là, et la guerre contre les fils pervers ne les atteindra pas à Gibéa. Ensuite, nous passons dans le Nouveau Testament, dans Romains chapitre 1, où le Saint-Esprit, par l'apôtre Paul, nous décrit le tableau des derniers chapitres du livre des Juges, dans Romains chapitre 1, versets 28 à 32. Comme ils n'ont pas jugé bon d'avoir la connaissance de Dieu, Dieu les a livrés à une mentalité réprouvée pour commettre des choses indignes. Ils sont remplis de toute espèce d'injustice, de méchanceté, de cupidité, de perfidie, plein d'envie, de meurtre, de discorde, de fraude, de vice, rapporteurs, médisants, impies, emportés, orgueilleux, fanfarons, ingénieux ou mal, rebelles à leurs parents, sans intelligence, sans loyauté, sans affection, sans indulgence, sans pitié. Et bien qu'ils connaissent le décret de Dieu selon lequel ceux qui pratiquent de telles choses sont dignes de mort, non seulement ils les font, mais encore ils approuvent ceux qui les pratiquent. Mais ne jetons pas la pierre aux autres, nous sommes concernés, car il est écrit en Romains 3, 23, « Car il n'y a pas de distinction, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. » Heureusement, il est suivi du verset 24 qui ne rend l'évangile que plus éclatant. Il est écrit en Romains 3, 24, « Et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est dans le Christ Jésus. »
Au fond d'une grotte sombre, sans fenêtre, très loin au fond, sans lumière, nous n'y voyons rien. Eh bien, dans ce texte de Juges, sans l'Esprit de Dieu, nous n'y voyons rien. Donc nous comptons vraiment sur sa grâce ce matin pour étudier ce texte. Nous arrivons donc à la fin du livre des Juges dans ses prédications expositions. Et nous arrivons donc avec un des textes les plus sombres et les plus répugnants de la Bible. Que faire face à un texte pareil? Alors tout d'abord, il faut le remettre dans son contexte. Parce que si nous ne le mettons pas dans son contexte, nous ne pouvons que mal le comprendre. Nous avons vu lors de la dernière prédication sur les juges que pendant tout ce livre, un refrain revenait régulièrement. Ce refrain était « Ils firent ce qui est mal aux yeux de l'Éternel ». Ils firent ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. Mais sans explication de ce que cela signifiait. Les deux appendices qui vont du chapitre 17 au chapitre 21, nous sommes dans le deuxième aujourd'hui, ces deux appendices nous donnent l'explication. Ces quatre chapitres nous donnent des exemples développés de ce que signifie l'expression « ils firent ce qui est mal aux yeux de l'Éternel ». Le récit de Gibéa et tout ce qui va avec est d'ailleurs devenu la référence de la perversité en Israël, hein, comme Sodome était la référence pour Canaan. Nous avons lu tout à l'heure les textes dans Osée qui nous le montrent, qui nous permettent de le comprendre. Donc en remettant le récit dans son contexte du livre et de la Bible, nous constatons une première chose, cela décrit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. Cela décrit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. Le refrain qui entoure le texte qu'on a lu aujourd'hui, au chapitre 19 et au chapitre 23, nous indique que chacun faisait ce qui lui semblait bon, sans suivre aucune autorité, surtout pas celle de Dieu, le roi légitime. Et nous avons déjà compris la dernière fois, en fait, que faire ce qui est bon aux yeux du peuple pécheur qui ne veut pas de la royauté de Dieu, hein, faire ce qui est bon aux yeux du peuple pécheur, c'est faire ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. Et j'espère que c'est clair pour chacun que ce récit décrit ce que Dieu a en horreur. Vous allez me dire, oui, c'est clair. Bien justement, si quelqu'un vient vers vous et vous dit un jour, « Regarde ce que j'ai lu dans la Bible. Je ne peux pas croire que ça vient de Dieu. Ben, » j'espère que vous pourrez le répondre déjà. Déjà même avec ce que je viens de vous dire. Parce que vous pourriez répondre, « Moi, je n'y ferai pas confiance non plus, si c'était ce qui était bien aux yeux de Dieu. » Mais ça décrit ce qui est mal à ses yeux. Ça décrit l'horreur selon l'Éternel. Bon, d'accord, me direz-vous, mais alors pourquoi lire ce texte? Qu'est-ce qu'on peut en retirer de ces horreurs de viol, de massacre et d'enlèvement? Alors j'espère que vous avez un peu frémi d'horreur comme en lisant ce texte, et que le dégoût, l'aversion, la répugnance ont été vos compagnons en lisant ce texte. Parce que c'est ainsi qu'on doit réagir face au péché. Plusieurs ont peut-être souffert en lisant ce texte. Moi, je peux vous dire que j'ai souffert en le travaillant pour apporter cette prédication. Même si je suis encore très loin de la sainteté, ce n'est qu'un échantillon de ce que Christ, le Saint, pur, parfait, a souffert au contact du péché, qui est horrible proportionnellement à la sainteté. Plus quelqu'un est saint, plus le péché est horrible et une souffrance pour lui. Donc le fait que vous souffriez en lisant ce texte vous permet d'un petit peu comprendre la souffrance de Christ qui est venu sur cette terre. Constatons donc une deuxième chose. Ce récit nous montre l'horreur et la répugnance du péché. Une troisième chose, face à un texte biblique que nous faisons d'habitude, mais comment parvient-on à la rivière de la grâce, au fleuve de la rédemption, au point central de la Bible qui est Jésus-Christ? Eh bien, nous ne trouvons pas de figure de Christ dans ce texte. Nous ne trouvons pas non plus d'explication du salut. Mais ce récit nous prépare et même nous pousse à désirer un sauveur, un roi, à implorer Dieu dans sa grâce commune. Et par un petit ruisseau qui est l'allusion aux besoins du roi, nous arrivons à la rivière de la grâce, au fleuve de la rédemption, à Jésus-Christ qui est le centre de la Bible. Si Dieu n'intervenait pas dans la société par sa grâce générale, par sa providence, le tableau de Juges 17 à 21 serait bien pâle face à ce que nous vivrions partout en permanence tant qu'il y a des gens qui vivraient. Si Dieu n'agissait pas par sa grâce générale, par sa providence, si Dieu n'était pas venu pour sauver les pécheurs qui méritent tous le même jugement que les protagonistes de notre histoire, personne ici ne pourrait éviter le juste jugement et la mort éternelle. Nous constatons ainsi une troisième chose. Ce récit nous montre le besoin profond d'un roi saint, capable de sauver et de gouverner les cœurs. Troisième constat, ce récit nous montre le besoin profond d'un roi qui soit capable de sauver et de gouverner les cœurs. Après ces considérations générales, je vous propose de vous arrêter quand même un peu sur les trois actes de ce récit qui se suivent comme des dominos qui tombent les uns après les autres. Sans l'allégeance au roi de sainteté, le péché non arrêté, que ce roi seul peut effacer et pardonner, le péché mène au pire. Une histoire anodine qui semble anodine, d'un lévite immoral, mène à un viol collectif, à un massacre d'innocents et à un enlèvement de jeunes filles. Les pires actions immorales, injustes et asociales. Le premier acte nous montrera donc que vivre sans la loi de sainteté même mène aux pires actions immorales. Le deuxième, que de vivre sans le roi de sainteté mène aux pires actions injustes. Et le troisième, que vivre sans le roi de sainteté mène aux pires actions asociales. Et nous verrons d'ailleurs que c'est la vengeance qui fait passer d'un acte à l'autre dans ce texte. C'est la vengeance. Commençons par notre premier point. Donc vivre sans le roi de sainteté mène aux pires actions immorales. L'immoralité est présente dès le premier verset de ce texte. Un lévite qui était censé vivre et enseigner la loi de Dieu, la loi de ce roi de sainteté, qui dit clairement que l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, c'est-à-dire fera alliance avec elle, et ensuite deviendront une seule chair. Ce lévite vit avec une concubine. Si vous allez dans le dictionnaire, vous verrez que le concubinage est l'état d'un homme et d'une femme qui vivent en communauté comme mari et femme sans être mariés ensemble. À cette immoralité s'additionne la conduite immorale de la concubine, qui va aussi en plus quitter le lévite. Et qui, 4 mois plus tard, donc il va la rechercher vers son père. Tous les personnages que nous rencontrons et que nous allons rencontrer vivent sans se soumettre au roi saint qui a horreur du péché. Chacun va chercher à trouver une solution aux conséquences à ses péchés sans jamais chercher à régler le péché lui-même. On va chercher à régler les conséquences, mais jamais le péché lui-même. Et ce premier acte se terminera par l'atrocité de ce viol collectif, suivi d'une non moins grande atrocité de découpage humain, qui indique que le péché enlève toute valeur à la vie humaine. Le Lévite, l'hôte, les Vauriens de Gibéa, par leurs paroles et leurs actions, montrent que les individus représentés, ici par la concubine et la fille vierge de l'autre, n'ont pas de valeur à leurs yeux. Le péché enlève la valeur. Le péché de la convoitise enlève toute valeur à la personne humaine. Le péché de la convoitise, ici particulièrement, enlève toute la valeur de la personne humaine. C'est notre première constatation. La deuxième constatation dans ce premier acte, c'est le degré d'égoïsme contenu dans ce passage. C'est juste abject. Chacun cherche ce qui lui semble bon sans tenir compte des autres. Après, c'est la loi du plus fort. Et le Lévite est une illustration particulièrement forte de ce péché. Le Lévite veut une femme sans alliance, donc sans responsabilité envers elle. Lorsqu'elle le quitte, il attend 4 mois pour aller la chercher. Moi, je suppose c'est parce qu'il voulait voir si elle était enceinte ou pas, de quelqu'un d'autre. Hein. Et il ne reste chez son bon père que parce qu'il est bien nourri et qu'il est poussé à réjouir son cœur. Puis il part dans un moment totalement inadéquat, sans penser aux autres. Hein? C'est juste lui qui veut partir. Et ensuite, pour se protéger, il donnera sa concubine en pâture à des pervers sexuels, pendant que lui va dormir. Et lorsqu'il la voit étendue, il lui parle durement, et il la ramène à la maison et utilise son corps pour un plan de vengeance. C'est terrible l'égoïsme quand on commence à le voir comme ça. Hein? Le péché de l'égoïsme non arrêté mène à la destruction aveugle. Le péché de l'égoïsme non arrêté mène à la destruction aveugle. Et sur le troisième élément que j'aimerais attirer encore notre attention, c'est sur la luxure. Qu'est-ce que la luxure? C'est la recherche, la pratique de plaisirs sexuels considérés comme immoraux. Et le Lévite ne devait pas être en reste dans ce domaine, voulant une femme sans avoir les responsabilités alliancielles de mari. Mais ce sont donc les Vauriens de Gibea qui nous permet de voir jusqu'où va cette luxure, cette recherche de plaisir sexuel. Ils viennent demander une relation homosexuelle sur ce Lévite. Je ne sais pas si vous avez remarqué, c'est un récit quasiment identique d'un autre chapitre 19. Dans les Juges 19, c'est dans Genèse 19. Ce récit est quasiment identique à ce qui s'est passé à Sodome, avec la venue des voyageurs, l'accueil de l'étranger, la demande d'une relation homosexuelle des hommes, la proposition de l'homme de donner des femmes de remplacement, le jugement de la ville et le rafistolage pécheur pour une descendance. C'est énorme les parallèles. Mais les Vauriens de Gibea, contrairement aux hommes de Sodome, ne sont pas rendus aveugles, mais acceptent la femme en échange de la paix pour l'homme. Ils sont tellement assoiffés de plaisirs sensuels que même s'ils voulaient un homme, une femme pourrait la faire. C'est terrible. Le péché de luxure non arrêtée mène au meurtre. Le péché de luxure non arrêtée mène au meurtre. Or, c'est vrai que ce meurtre ne sera pas forcément toujours physique. Il pourrait aussi être moral, social, relationnel, émotionnel, etc. Le péché de luxure non arrêtée mène au meurtre. Je vous rassure, nous allons nous arrêter là pour ce premier acte concernant les constatations. Mais j'aimerais quand même attirer l'attention sur nos propres vies. Avez-vous déjà été dans une situation où la valeur d'une personne comptait moins que ce que vous désiriez avoir? Sa dignité, sa liberté, son bien-être ou sa réputation avaient moins de valeur que ce que vous vouliez atteindre ou obtenir? Avez-vous déjà vécu des situations où la seule chose qui comptait pour vous, c'était que vous soyez bien, ou que vous mangiez bien, ou que l'on vous laisse la paix, quel que soit le prix ou les conséquences pour les autres? Vous êtes pensé à des horreurs, hein, comme à Gibea. Après, par rapport à cette luxure, avez-vous déjà été dans une situation où votre désir de plaisir sexuel vous pousse à choisir de faire des choses que vous regrettez ensuite? Le péché non arrêté peut mener, si Dieu laisse libre cours, aux pires actions immorales. Et je ne peux que nous supplier, j'écoute avec vous la prédication, je ne peux que nous supplier, si nous voyons ou constatons de la convoitise, de l'égoïsme ou de la luxure dans notre vie, ne faisons pas comme le Lévite qui n'a jamais cherché son secours auprès de Dieu, mais courons vers Christ, qui peut nous libérer, qui peut nous pardonner, qui peut nous permettre de nous en détourner. Au contraire du Lévite, Jésus-Christ le... Non, je vais quand même insister sur son... Allons vers Christ, ça c'est vraiment important. On voit le Lévite, il ne cherche jamais. Les solutions qu'il va chercher, c'est la vengeance. Non, ne cherchons pas la vengeance. Allons vers Christ qui a payé. Il ne va jamais vous mettre dehors. Jamais. Si vous allez à Christ avec un péché, que vous lui confessez, vous lui demandez pardon, il ne va jamais vous mettre dehors, jamais. Il va vous accueillir, il va vous pardonner. Et il va bien sûr vous dire, va et ne pêche plus, évidemment. Mais faisons cela dès la moindre apparition. Ici, on est déjà au bout, on est dans des situations terribles. La moindre apparition de convoitise, d'égoïsme ou de luxure. Maintenant, par rapport aux Lévites, il y a un contraste phénoménal. Au contraire du Lévite, Jésus-Christ, le roi de sainteté, est le modèle du mari qui fait alliance. Lui, il fait alliance, pas comme le Lévite. Qui se livre lui-même pour son épouse, qu'il aime, et cherche la gloire de sa bien-aimée. Un contraste saisissant. Jésus-Christ, c'est le roi de sainteté, le modèle du mari qui fait alliance, qui se livre, non pas qui livre l'autre, qui se livre lui-même pour son épouse et qu'il aime et qui cherche la gloire de sa bien-aimée. Le Lévite va livrer sa concubine pour lui-même et chercher sa propre gloire. Le Lévite n'a pas cherché la face de Dieu. Il n'a pas lui-même cherché à vivre selon la morale du roi de sainteté. Alors lorsqu'il a été attaqué, qu'on lui a enlevé son jouet sexuel, hein, il va se venger. Et c'est ce qui amène aux pires injustices. C'est notre point suivant. Vivre sans le roi de sainteté mène aux pires actions injustes. Quel drôle de justice. Un homme furieux qui découpe sa femme après et amène le peuple à être plus uni qu'il n'a jamais été. Si on me dit que le scandale et les sensations n'ont aucun pouvoir, ben il faut relire cette histoire. Et regarder les médias et les groupes d'influence qui usent et abusent de ce procédé. Il faut scandaliser pour faire réagir. Mais où trouvez-vous ce genre de manipulation dans la loi du roi de sainteté pour un appel au juste jugement? Nulle part. Nulle part. Parce que les lois sont claires, les sanctions sont également claires, il n'y a pas besoin de choquer pour exécuter la loi. Le Lévite ne cherche pas la justice. Et sa déposition en tant que témoin le montre clairement. Ce n'est pas la vérité qui prime, c'est la punition de la ville de Gibéa. C'est ça qui prime pour lui. Et, soit dit en passant, la notoriété du brave courageux qui a eu l'audace de dénoncer cette infamie. Le peuple écoute un seul témoin. Mais où sont les accusés? Et où sont les juges qui devraient mener l'enquête? À entendre le Lévite, il a fait un acte de bravoure face aux notables de Gibéa qui voulaient le tuer et qui s'en sont pris à sa concubine. Personne ne demande, mais pourquoi ils s'en sont pris à ta concubine, alors? Et comment s'est-il passé? Ils ont entendu que ces gens ont commis une infamie, un crime, un acte odieux, horrible. Ils ont surtout reçu un bout de corps, et ils en sont encore choqués et bouleversés. Il faut réagir. Mais on ne cherche pas la justice selon le roi de sainteté. Sinon, le peuple aurait tout de suite consulté l'Éternel. Non, ils cherchent la justice selon ce qui leur semble bon et se laissent entraîner par un beau discoureur qui est une fripouille mais qui se fait passer pour un héros. C'est un parti pris sans vérification. C'est un parti pris sans vérification. Le péché de la partialité non arrêtée rend aveugle. Le péché de la partialité non arrêtée rend aveugle. Si le peuple avait su que c'était le Lévite qui avait mis la concubine dans le bras des Vauriens de Gibéa, que serait-il arrivé? Mais le peuple ne le sait pas, parce qu'il ne cherche pas à le savoir non plus. Alors il suit aveuglément ce que dit le Lévite et agit sous son impulsion à prendre rapidement une décision. Pour tout le peuple, c'est clair. Il faut aller à Gibéa. Et là, tout à coup, il sent qu'une lumière jaillit. Hein, ce verset qui nous dit qu'ils ont demandé de livrer les Vauriens. On dit, ah, peut-être un peu de justice. Tout à coup, ils ne sont pas en train de tout monter. On va okay. Mais nous voyons que les Benjaminites, non seulement ne veulent pas livrer ceux qui ont commis une telle horreur sur la concubine, et qui méritent le jugement et le châtiment. Non seulement ils ne veulent pas les livrer, mais ils sont prêts à donner leur vie pour défendre ces méchants. Le péché de complicité avec le mal, amène à défendre le pécheur qui ne se repent pas et à subir les conséquences de son péché avec lui. Le péché de complicité avec le mal amène à défendre le pécheur qui ne se repent pas et à subir les conséquences de son péché avec lui. Or, une partie des Benjaminites ont protégé et même défendu ces pervers de Gibéa qui avaient fait une action si horrible. la quasi-totalité des combattants ont été justement mis à mort. Malheureusement, les Israélites n'ont pas été jusqu'au bout de la justice et fait passer tous les hommes qui avaient combattu pour Gibéa par le fil de l'épée. Cette constatation de l'accueil et même de la défense du pécheur sans demande de repentance amène toujours au désastre. Et non seulement Benjamin, mais Israël en fait aussi les frais. Parce qu'ils ont accueilli et défendu le Lévite. Voilà pourquoi les deux premiers combats ont été perdus. Comment ne pas penser à la bataille entre Haï, c'est une ville, hein, Haï, après Jéricho, Haï, qui avait battu le peuple de Dieu parce que Achan avait péché en secret. Souvenez? Bien ici, le Achan de l'histoire, c'est le Lévite. Non, vraiment protéger ou même défendre un pécheur non repentant, c'est pas une bonne idée. C'est vrai que nous voyons plusieurs fois le peuple pleurer, se lamenter. Mais il ne semble pas que c'était de la repentance, parce qu'il doit faire quelque chose d'horrible, de pire encore. La pire action d'un juste. Le peuple va se détourner de ces 600 guerriers qui défendaient les méchants, donc qui, eux, c'est vrai, étaient sous le jugement. Ils vont se détourner d'eux pour faire quoi? Pour aller massacrer tous les autres habitants de Benjamin. C'est verset 48 du chapitre 20. C'est absolument horrible. Le peuple revient d'une action non achevée où il a subi une grande perte. Hein, Israël, 40 000 morts, on l'a entendu tout à l'heure. Donc, une grande perte a été... Mais c'est à cause de son propre péché. Qu'est-ce qu'ils vont faire si on pourrait dire qu'ils vont décharger leurs nerfs sur tous ces innocents benjaminites? Il est vrai que le peuple devait prendre le pays de Canaan et le passer sous l'interdit. Mais parce qu'ils étaient des idolâtres sous le jugement de Dieu. Ici, et dans le texte, vous pouvez le relire en regardant cette notion, il est parlé de frères. Ils s'attaquent à leurs frères, qui n'ont d'ailleurs rien fait de mal en plus. Ils n'ont pas défendu Gibéa, qui était sous le jugement de Dieu. En fait, ces Israélites sont remplis d'amertume, et le péché de l'amertume mène au massacre de l'innocent. Le péché de l'amertume mène au massacre de l'innocent. Quelle tragédie! Mais sommes-nous vraiment différents? Sommes-nous toujours impartiaux? On n'écoute pas seulement une personne, hein? On écoute toutes les personnes concernées. Sommes-nous jamais complices du mal? Ne cultivons-nous jamais l'amertume qui conduit au meurtre dans le cœur? Quand on réfléchit, c'est effrayant. Enfin, pour moi, ça m'effraie. C'est effrayant de constater que nous sommes beaucoup plus semblables de ce peuple que nous voudrions l'être. Un peuple qui ne vit pas selon le roi de sainteté. Et cela doit faire quelque chose en nous. Cela doit nous pousser à nous rapprocher du seul roi de sainteté qui est totalement impartial, qui n'a aucun lien avec tout mal et qui pardonne en choisissant de ne plus penser au mal. Ce roi de sainteté, c'est Jésus-Christ. Cela doit nous pousser, je le redis là, nous rapprocher du seul roi de sainteté qui est totalement impartial, qui n'a aucun lien avec le mal et qui pardonne en choisissant de ne plus penser à ce mal pardonné. Ce roi de sainteté, c'est Jésus-Christ. Nous sommes donc appelés à chercher la vérité. Amenons le pécheur à se repentir. N'excusons jamais le péché. Si quelqu'un vient vous demander pardon, il ne faut pas dire « c'est rien ». On en avait parlé dans l'artisan de paix. C'est pas rien, c'est un péché, c'est grave. On ne va pas chercher à charger l'autre personne, évidemment, mais on ne va pas dire « c'est rien ». On va simplement dire « j'ai reçu, moi, le pardon de Dieu. Moi, je veux aussi te le donner. Et je veux que tu puisses le vivre. » C'est autrement plus délivrant. Donc n'excusons jamais le péché, mais présentons toujours la grâce de Dieu pour la repentance. Et ne laissons pas l'amertume porter de mauvais fruits dans nos cœurs. Et pour vivre cela, on a besoin de quelque chose. On a besoin de puiser dans la grâce de Christ. Et il y en a. Et il y en a assez. Et il y en aura toujours assez. Allons vers lui, puiser dans sa grâce. Nous souvenir de ce qu'il a fait pour nous, pour que nous puissions aussi être ceux qui transmettre la grâce à d'autres. On va quand même revenir encore dans Juges, dans le dernier chapitre, pour la dernière partie. Vivre sans roi de sainteté mène aux pires actions sociales. Qu'on comprenne un peu ce qui se passe ici. Le peuple vient de se venger et de tuer tous les benjaminites, hein, sauf les 600 qui ont défendu les pêcheurs. Peut-être même que des vauriens étaient dans ces 600, hein, d'ailleurs, ceux qui étaient au chapitre 19. Israël vient de massacrer gratuitement tant de personnes, et nous apprenons qu'ils avaient fait un serment insensé de ne pas donner leur fille aux Benjaminites, sous le coup du scandale, hein, et du dégoût. Selon ce serment, la situation de la tribu de Benjamin est condamnée à disparaître, parce qu'il n'y a plus que des hommes. Israël se place devant Dieu et pleure, en faisant quasiment porter la responsabilité à Dieu de la disparition de cette tribu. Alors qu'ils viennent eux-mêmes de le massacrer injustement et l'ont placé sous un serment fait sous l'indignation. Les Israélites sont victorieux, la cause ont gagné. Pourtant, il n'y a pas de joie dans le camp. Aucune joie. Pas de joie dans le camp. Et un élément que j'aimerais souligner ici, c'est que le péché des serments insensés bloque la vie sociale. Le péché des serments insensés bloque la vie sociale. Si vous, un jour, vous avez fait un serment insensé, repentez-vous et délivrez-vous de ce serment. Pour que la tribu de Benjamin ne disparaisse pas, il faut trouver une solution. Donner coûte que coûte des femmes aux rescapés de Gibéa. C'est ce qui est décidé sans consulter l'Éternel. Et un commentateur dit, la tentative de reconstruction de la tribu de Benjamin fournit un exemple typique de bricolage, du pire bricolage social. Ils réfléchissent comment ils pourraient donner des femmes à ces hommes retranchés dans le désert, en respectant leur serment fait sous indignation. Et là, ils se souviennent d'un autre serment qu'ils ont aussi fait. Il est bien possible, ils en aient fait encore d'autres, hein, dans leur dégoût et leur précipitation. Ils auraient pu s'en repentir. Mais ils tiennent ici à tenir leur parole et montrer leur justice. Et c'est un serment qui leur semblait utile pour trouver une solution à ce problème de femme qui est retenu. Le serment disait que quiconque ne monterait pas vers l'Éternel à Mitzpah serait puni de mort. On cherche qui n'est pas monté à Mitzpah. Entre nous, ce n'était pas Mitzpah. Là, quand ils regardent, ils sont à Bethel. Hein, donc il y a un problème, on verra. Et on trouve que personne n'est venu de la ville de Yabesh en Galade. Qui devait être puni de mort? Tous les hommes? Toute la population? Nous ne savons pas ce qu'ils ont dit lors du serment. Mais ils l'adaptent pour aller chercher des femmes pour les Benjaminites. Ce jugement n'est pas appliqué pour une question de justice, mais pour une question utilitaire. S'il n'y avait pas eu ce besoin de femmes, ils n'auraient pas exercé ce jugement. La sanction n'est appliquée que pour des raisons utilitaires. La peine est exécutée de manière discriminatoire, car le peuple, et je l'ai dit tout à l'heure, est maintenant à Bethel, et va punir ceux qui n'étaient pas là, alors que le serment concernait en fait un rassemblement à Mitzpah. Et troisièmement, la sanction envisagée par le vœu au départ était injuste, car le refus d'un citoyen de punir un autre citoyen n'est pas passible de la peine capitale. Sauf s'il y a solidarisation avec le péché et protection pour le péché, comme les Benjaminites l'ont fait, mais les autres ne l'avaient pas fait. Mais comme il n'y avait pas assez de fautes comme ça, après ce nouveau massacre d'innocents à Yabesh, les Israélites vont offrir la paix aux pécheurs. Donc ils vont faire un massacre, chercher les femmes, et ils vont offrir la paix à ceux qui ont combattu pour les Gibéonites, ils leur offrent la paix sans qu'ils aient manifesté aucun signe de repentance. Ils leur donnent 400 femmes collectées, ce qui permet à la tribu de Benjamin de ne pas disparaître. Ça devrait s'arrêter là, parce qu'il n'y a plus de danger d'extinction maintenant. Eh bien non. Et là, un fait intéressant, absolument tragique. Les anciens de la communauté, c'est ce qui est écrit, les anciens de la communauté, qui avec les Lévites devaient conduire le peuple, avec droiture et selon le roi de sainteté, les anciens dont il n'a encore pas été question dans le livre des juges jusqu'à maintenant, vont montrer le fond de la déchéance de ce peuple. Ils auraient dû faire justice et mettre à mort les vauriens de Gibéa qui ont fait violence à une femme ainsi qu'à tous ceux qui se sont solidarisés avec eux. Et voilà qu'ils font pire qu'eux. Les anciens ne proposent pas, alors le seulement c'est entre parenthèses, hein, entre guillemets, vous me comprendrez. Donc, les anciens ne proposent pas seulement de faire violence à une femme pendant une nuit, ils proposent de faire violence à 200 filles vierges pendant toute une vie. Mais jusqu'où on arrivait? En plus des 400 déjà donnés. Ces anciens de la communauté proposent cette action immonde de l'enlèvement de ces innocentes, qui ne savent d'ailleurs pas ce qui va leur arriver, et vont même jusqu'à l'approuver et protéger ceux qui le pratiquent. Et le texte se termine en disant que chacun rentre tranquillement à la maison. Bon, il n'est pas parlé des 600 filles. Le texte de Romains 1, 18 à 32 dans le Nouveau Testament décrit totalement ce que nous voulons voir. Nous l'avons déjà entendu tout à l'heure, mais j'aimerais le relire maintenant pour qu'on comprenne cette notion. Romains 1, 28. Comme ils n'ont pas jugé bon d'avoir la connaissance de Dieu, Dieu les a livrés à une mentalité réprouvée pour commettre des choses indignes. Ils sont remplis de toute espèce d'injustice, de méchanceté, de cupidité, de perfidie, pleins d'envie, de meurtre, de discorde, de fraude, de vice, rapporteurs médisants, impies, emportés, orgueilleux, fanfarons, ingénieux au mal, rebelles à leurs parents, sans intelligence, sans loyauté, sans affection, sans indulgence, sans pitié. Et bien qu'ils connaissent le décret de Dieu, selon lequel ceux qui pratiquent de telles choses sont dignes de mort, non seulement ils les font, mais encore ils approuvent ceux qui les pratiquent. Mais ne jetons pas la pierre aux autres. Chacun de nos péchés sont aussi horribles lorsqu'on les regarde depuis la sainteté. De plus, comme nous l'avons vu dans Romains 3, 23, qui dit clairement, il n'y a pas de distinction. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Ailleurs, il est aussi dit, il n'y a pas de juste, pas même un seul. Aucun qui fasse le bien, pas même un seul. Je peux donc affirmer sur la révélation de Dieu que toute personne qui m'entend est pécheur. Et ce n'est que lorsque vous comprenez cette situation terrible, sans espoir, que vous êtes pécheur de la même chose que cette histoire-là dans Juges, que l'on comprend la merveille de l'Évangile. Ah, heureusement qu'il y a le verset 24 après le verset 23 de Romains. Romains 3, 23, car il n'y a pas de distinction, tous sont péchés, sont privés de la gloire de Dieu, et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce. Quand j'entends ces mots, c'est qu'après tout ce qu'on vient de voir, pas facile de parler de tout ça, mais c'est comme une onde. Par la grâce, par le moyen de la rédemption qui est dans le Christ Jésus. En fait, cette fin du livre des juges totalement négative nous pousse le lecteur à soupirer. Mais Seigneur, agis. Et le dernier verset parle de, comme j'ai dit, ce petit ruisseau qui va venir vers la rivière, parle de cette solution. Un roi, voilà ce qu'il faut. Oh, non pas un roi comme les hommes désirent, parce qu'il ne pourra pas changer les cœurs. D'ailleurs, juste en passant, le premier roi d'Israël, Saül, d'où venait-il? Il venait de la ville qui était la référence de la corruption, de Guibert en fait. Non, ce n'est pas ce genre de roi qu'on a besoin. C'est un roi totalement souverain, qui peut absolument tout faire ce qu'il veut, qui a les moyens de transformer les cœurs et qui peut justifier par sa grâce. C'est un roi tel que celui-là que nous avons besoin. Un roi qui est totalement souverain, qui peut faire tout ce qu'il veut. Personne ne peut l'arrêter. Qui a les moyens de transformer les cœurs et qui peut justifier par sa grâce. C'est un roi comme ça dont nous avons besoin. Et ce roi, c'est Jésus-Christ, Dieu homme, totalement souverain, qui peut absolument tout faire et qui a les moyens de transformer les cœurs, qui a payé le prix pour nos offenses et qui est plein de grâce pour ceux qui viennent à lui. Ah, quel roi merveilleux! Un roi qui nous permet de vivre ensemble sous un même royaume. Si nous cherchons tous à être rois de notre royaume, on aura plein de royaumes qui vont se battre les uns contre les autres. Si nous vivons tous pour le royaume du roi Jésus-Christ, nous serons dans le même royaume. Il n'y a plus de combat et de bataille. Nous sommes dans le même royaume. Jésus-Christ, c'est le roi qu'il nous faut. Alors, allons-nous vivre sous ses ordres et sa protection? Ou allons-nous agir comme les Israélites du temps des juges, qui parce qu'ils ne voyaient pas le roi, c'est vrai qu'ils ne voyaient pas l'Éternel, mais parce qu'ils ne voyaient pas le roi, ils vivaient selon ce qui leur semblait bon. À la fin de ce livre des juges qui m'aura fait transpirer et qui nous aura bousculé, j'espère que chacun peut maintenant comprendre la précieuse utilité de ce livre inspiré de Dieu pour nos vies. Le livre des juges manifeste, cette fois-ci c'est tous les juges, c'est pas juste ces trois derniers chapitres, mais le livre des juges manifeste le besoin d'un libérateur parfait. Les juges que nous avons rencontrés comme Othniel, Déborah et Barak, Gédéon, Jephthé, Samson, nous ont permis de voir chez chacun d'eux quelques aspects du juge parfait. Ce qui était bon chez les juges permettait de souligner les aspects de ce libérateur Et ce qui était mauvais chez les juges nous permettait de souligner l'inverse qui caractérisait le libérateur parfait. Le livre des juges manifeste aussi le besoin d'un roi unique, saint, aimant et droit, pour que nous vivions tous sous ce même royaume et plus sur nos chacun nos petits royaumes. Si le livre des juges manifeste le besoin d'un libérateur parfait, d'un roi saint, aimant et droit, ce livre nous indique également très fortement la souveraineté et la grâce de Dieu, malgré la profondeur et l'horreur du péché. Si le livre des juges manifeste le besoin d'un libérateur parfait, d'un roi saint, aimant et droit, ce livre nous indique également très fortement la souveraineté et la grâce de Dieu, malgré la profondeur et l'horreur du péché. Parce qu'après tout ce qu'on a vu aujourd'hui dans ces trois chapitres, ce n'est que par la grâce de Dieu, parce que sa grâce est plus grande que la profondeur du péché du peuple d'Israël, que le peuple d'Israël n'a pas été anéanti. C'est pas possible. C'est horrible ce qu'ils ont fait. Si la grâce de Dieu n'était pas plus grande que cela, il n'y aurait plus d'Israël. Sa grâce est encore plus grande et a permis que ce peuple-là a été le berceau de l'homme-Dieu, Jésus-Christ, qui est la source du salut pour tous les hommes. À la fin de ce livre, rappelons-nous trois choses, nous arrivons à la fin. Nous avons besoin d'un libérateur. Nous avons besoin d'un libérateur. Ne faisons pas comme le peuple qui cherchait à s'en sortir par lui-même. La grâce de ce libérateur est plus profonde que tous nos péchés, ou plus grande que la profondeur de nos péchés, si vous voulez. La grâce de ce libérateur. N'hésitez jamais à aller vers Jésus-Christ, le libérateur. Jamais. Il ne va jamais vous repousser. Il l'a dit. Deuxièmement, nous avons besoin d'un roi de sainteté qui donne les normes et qui définit ce qui est juste et bon afin de ne pas vivre selon ce qui nous semble bon, mais selon ce qui est bon d'après celui qui est totalement séparé du péché. Le monde vous dit que ceci est bon et Dieu dit que c'est mauvais. C'est Dieu qui a raison. Vous pensez que ceci est bon et Dieu dit que c'est mauvais. C'est Dieu qui a raison. C'est lui le roi. Nous avons besoin d'un roi de sainteté qui nous donne les normes et qui définit ce qui est bon et juste. Et dernier élément, nous avons besoin de comprendre que face au péché, il n'est pas possible d'être trop saint. Ça, on l'a vu tout au début de la série de juges. Non, il n'est pas possible d'être trop saint, car tout ce qui s'éloigne de la sainteté se rapproche de l'horreur du péché. Soit on est saint puis on cherche à être toujours plus saint, on ne peut jamais être trop saint. Et dès qu'on s'éloigne de la sainteté, en fait, on se rapproche de nouveau de l'horreur du péché. Et ces trois choses, qu'on a besoin d'un libérateur, d'un roi, et de comprendre que face au péché, il n'est pas possible d'être trop saint, ces trois choses sont fondées, appuyées, construites, vécues, grâce à, avec l'aide de et pour Jésus-Christ. C'est lui notre fondement. C'est lui qui nous permettra d'aller de l'avant. C'est lui notre libérateur. C'est lui notre roi. À lui, le roi de sainteté, soit la gloire et la majesté. Que ce soit vraiment de nos cœurs, face à tout ce que nous avons vu là, qui est quelque part, c'est horrible. Et je pourrais dire, je ne vous conseille pas de le lire souvent. Par contre, si un jour vous vous demandez si vous êtes encore sensible au péché, lisez ce texte. Si vous êtes insensible en lisant ce texte, courez à Christ, courez à lui. Parce que vous avez besoin d'être sensible. Le péché doit être une horreur pour nous. Ça doit nous dégoûter. Si vous lisez ce texte et ça vous dégoûte, c'est normal. Et que ce texte nous pousse à dire, nous ne voulons pas vivre chacun selon nos normes, non. Nous voulons vivre selon le roi de sainteté. À lui soit la gloire et la majesté. Allons prier. Éternel notre Dieu, tu nous dis dans ta parole que nous passons parfois par des épreuves et lire ce genre de texte est une épreuve, mais tu ne le fais jamais pour notre mal, tu le fais pour que nous puissions grandir, pour que nous puissions nous réjouir que tu nous délivres du péché et de cette horreur. Cela nous fait penser aussi, Seigneur, que nous voulons te prier avec instance de protéger tous ceux qui sont autour de nous. Nous sommes conscients que si tu laissais aller le péché dans la vie de chacun, ce texte que nous venons de lire serait peut-être bien au-dessous de la profondeur de l'horreur que nous pourrions voir. Nous te remercions pour tout ce que tu as déjà gardé. Nous te prions de continuer à mettre ta main bénissante sur tous ceux qui nous entourent, sur notre pays, sur le monde. Et Seigneur, j'aimerais te prier de nous donner aussi, en lisant ces textes, en nous en rappelant, de nous donner la joie de savoir que toi, tu es un roi tellement bon, qui nous permet de prendre un chemin qui nous écarte de ce péché immonde. Seigneur, j'aimerais te prier comme le priait aussi l'un de mes prédécesseurs, donne-nous de la haine du péché et de l'amour pour ta sainteté. Dans le bon nom de Jésus-Christ. Amen.